La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le texte de base de cette présentation se trouve en Apocalypse, chapitre 14 et au verset 8. Où allons-nous? Apocalypse 14 et le verset 8. Et là, nous lisons, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le terme grec traduit, tout du moins le terme qui est traduit ici par « suivi » vient du grec « akolutheo ». Et ce terme signifie « suivre », mais pas seulement. Il signifie également « accompagner », comme nous pouvons le voir dans ces versets, Matthieu 19, versets 27 et 28. Alors, Pierre, prenant la parole, lui dit « voici, nous avons tout quitté ». Et nous t'avons suivi, akolutheo. Que nous arrivera-t-il donc? Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité à vous qui m'avez suivi, akolutheo, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sous le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Donc là, ici, Jésus parlait à ses disciples et il leur disait ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont accompagné. Et il y a un deuxième texte qui est Marc chapitre 1 verset 17 et 18 où nous lisons « Alors Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et ce terme eh bien, est traduit à partir du grec « akolutheo ». Dans ces versets que nous avons lus, ce mot véhicule l'idée d'accompagner personnellement Jésus. Et en Apocalypse 14, verset 8, le mot semble avoir ces deux significations. Et du point de vue temporel, bien aimé, le deuxième ange suit le premier ange. Mais il est également vrai que le premier ange continue eh bien, son ministère lorsque le deuxième ange le rejoint. Et en ce sens, le message du deuxième ange accompagne celui du premier. Et les messages du premier et du troisième ange sont tous deux proclamés d'une voix forte. Ils sont tous deux proclamés d'une voix forte d'après les versets 7 et 9 d'Apocalypse 14. Tandis que le message concernant la chute de Babylone n'est pas immédiatement proclamé d'une voix forte. Et je dis pas immédiatement proclamé d'une voix forte, car c'est avec l'ange du chapitre 18 que ce message sera finalement proclamé d'une voix forte. En effet, en Apocalypse 18, versets 1 et 2, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, « elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. » Et ce message, que ce soit en Apocalypse 14, 8 ou Apocalypse 18, 1 et 2, nous parle de la chute de Babylone. De quelle Babylone s'agit-il ici? Certainement pas de la ville littérale de Babylone, car lorsque nous avons, eh bien, lorsque nous considérons ce que la Bible nous dit concernant cette ville, eh bien, nous nous rendons compte que cette ville était déjà détruite et n'était plus habitée, mes amis, à l'époque même où Jean a écrit l'Apocalypse, d'accord? Et nous pouvons lire cela en Ésaïe 13, versets 19 et 20. Et Babylone, l'ornement des empires, la parure et l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. On n'y demeurera plus d'âge en âge. La rame n'y dressera point sa tente. Les bergers n'y feront plus reposer leurs troupeaux. Donc, nous venons d'établir qu'il ne peut pas s'agir de la Babylone littérale. Donc, pour bien comprendre la signification de Babylone, mais aussi sa chute, il nous faut impérativement saisir le lien typologique entre la Babylone de la fin des temps et l'ancienne Babylone. Et ce notamment à travers l'histoire. Et ce notamment à travers l'histoire d'Israël ancien. Car voyez-vous, les expressions qui sont employées par le deuxième ange font écho. Ils font écho aux oracles funestes d'Ésaïe et de Jérémie à l'encontre de l'ancienne Babylone. En effet, en Ésaïe 21, verset 9, nous lisons « Et voici venir de la cavalerie des cavaliers deux à deux, et prend encore la parole, et dit « elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » Et en Jérémie 51, versets 6 et 7, « Fuyez loin de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend ce qu'elle a mérité. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. » Les Hébreux ont péjorativement associé Babel avec Baal. Un verbe hébreu qui signifie « confondre » et duquel est dérivé le nom Babel, qui signifie « confusion ». D'après ce que nous lisons en Genèse 11, verset 9, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, ici, nous pouvons noter l'une des premières caractéristiques de Babylone. C'est que c'est le centre de la confusion. Qu'avons-nous dit ici? Babylone est le centre de la confusion. Cependant, en babylonien, Babylone est dérivé du nom Babylou, qui signifie « porte des dieux », mes amis. Et les dirigeants de Babylone pensaient que leur ville, était en fait le lieu où les dieux s'associaient aux hommes pour organiser les affaires de la terre. Ainsi, pensait-il avoir été divinement choisi pour gouverner le monde. Donc, avec ce que nous venons de dire à l'instant, nous comprenons que la deuxième caractéristique de Babylone, c'est qu'elle est l'instrument par lequel l'idolâtrie domine le monde. Qu'avons-nous dit ici? Babylone est l'instrument par lequel l'idolâtrie domine le monde. Et la Bible lit la naissance de cette ville à un dénommé Nimrod, dont on nous parle en Genèse 10, versets 8 à 10. « Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érech, Akkad et Calné, dans le pays de Chinéa. » Lorsque nous lisons que Nimrod était un puissant chasseur devant Dieu, le texte original, en fait, devrait être compris et traduit comme étant contre Dieu. Il était un puissant chasseur contre Dieu. Cet homme était en fait un ennemi de l'Éternel. Et pourquoi contre Dieu? C'est que, voyez-vous, dans le registre des nations, Nimrod est présenté comme étant l'auteur de l'impérialisme. En effet, c'est avec lui que les hommes sont passés d'une société patriarcale à une société monarchique. En clair, Nimrod est le premier homme mentionné dans la Bible comme étant le chef d'un royaume, ce qui marque son opposition à l'égard de Dieu, puisque le Très-Haut était jusqu'alors le seul à être reconnu comme roi. Ce qui nous permet d'établir la troisième caractéristique de Babylone, qui est que c'est le royaume où l'homme domine l'homme. Qu'avons-nous dit ici? Babylone est le royaume où l'homme domine l'homme. Ainsi, dès le commencement, Babylone fut caractérisée par l'incrédulité et le mépris de la volonté divine. En effet, le plan initial de Dieu était que l'homme peuple la terre, d'après ce que nous lisons en Genèse 1, verset 28. Or, la construction de la ville Babel venait directement s'opposer à cet ordre. En effet, en Genèse 11, verset 4, nous lisons « Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Nous avons là, ici, mes amis, la quatrième caractéristique de Babylone, qui est que, eh bien, cette ville est l'emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. Nous avons dit que Babylone est l'emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. Nebuchadnezzar lui-même exprima sa volonté de faire de Babylone un royaume universel et éternel lorsqu'il fit ériger la statue d'or dont on nous parle en Daniel 2. Et voyez-vous, en Daniel 3, eh bien, il a mis à exécution sa volonté. C'est-à-dire que la statue d'or de Daniel 2 nous disait que le message que Dieu voulait envoyer, c'était que Babylone était la tête d'or et qu'après, des royaumes suivraient. Mais lui, le roi Nebuchadnezzar, il voulait que non, toute la statue soit d'or. C'est-à-dire que son royaume dure éternellement. Et c'est pour cela qu'il a fait établir la statue dont on nous parle en Daniel 3. Pour, eh bien, contrecarrer la prophétie, ce que Dieu lui avait donné, eh bien, en songe en Daniel 2. Ainsi, la cinquième caractéristique de Babylone est peut-être très clairement perçue à travers cela, c'est que Babylone prétend être universelle et éternelle. Babylone prétend être universelle et éternelle. Et lorsque Daniel, le prophète, expliqua à Nebuchadnezzar comment échapper au malheur qui le menaçait, il lui fit savoir qu'il devait mettre un terme à l'injustice qui caractérisait son royaume. En effet, en Daniel 4, verset 27, nous lisons que Daniel dit au roi, « C'est pourquoi, ô roi ?» Et là, il s'adresse à Nebuchadnezzar. « Agrée mon conseil et mets un terme à tes péchés par la justice et à tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres si ta prospérité doit se prolonger. » Ainsi, nous voyons là la sixième caractéristique de Babylone, qui est qu'elle bannit la justice. Babylone bannit la justice. Et tout cela, bien aimé, n'est pas étonnant. Quand on apprend que le prophète Ésaïe identifie l'ange déchu, à savoir Lucifer, Satan, comme étant le roi invisible de Babylone. En effet, en Ésaïe 14, verset 4, 12 à 14, nous lisons « Tu commenceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras « Comment a fini le tyran ? Comment a fini l'oppression ? Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore ? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations ? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sous la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquillon, je monterai sous les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Tout comme Dieu s'était proposé d'œuvrer à travers la Jérusalem terrestre, Satan fit de Babylone l'instrument par lequel il tâcha de faire la guerre au Dieu d'Israël et à son peuple. En effet, Babylone oppressa le peuple de Dieu. Babylone les amena en captivité. Elle blasphéma contre le Dieu d'Israël et foula même le temple de Dieu. Elle le foula même aux pieds. Et c'est pour cela que la rétribution divine, mes chers amis, fut causée par le mal que Babylone avait commis à l'égard de Sion. En Jérémie 51, verset 24, « Mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée, sous vos yeux, tous les maux qu'ils ont fait venir dans Sion, dit l'Éternel. Mais cela ne concernait pas que Sion, à savoir Jérusalem, mais aussi contre le temple de Dieu. En effet, au verset 11, nous lisons « Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie parce qu'il a résolu de détruire Babylone. Car c'est ici la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. » Ainsi, sous l'Ancien Testament, ces deux villes, Babylone et Jérusalem, étaient sur terre le symbole du conflit qui avait commencé au ciel. Ainsi, la septième caractéristique de Babylone est qu'elle est l'ennemi d'Israël et de son Dieu. Babylone est l'ennemi d'Israël et de son Dieu. Et voyez-vous, comme la Babylone littérale est un symbole de la Babylone de l'Apocalypse, il s'ensuit que l'inimitié qui existe entre la Babylone littérale et Israël, selon la chair, existera entre la Babylone de l'Apocalypse et l'Israël de Dieu à la fin des temps. Et j'aimerais que nous puissions résumer les sept caractéristiques de la Babylone historique. Qu'allons-nous faire ici? Nous allons résumer les sept caractéristiques de la Babylone historique. La première, c'est que Babylone est le centre de la confusion. Deuxième caractéristique, elle est l'instrument par lequel l'idolâtrie domine le monde. Troisième caractéristique, c'est le royaume où l'homme domine l'homme. Quatrième caractéristique, elle est l'emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. Cinquièmement, elle a la prétention d'être universelle et éternelle. Sixièmement, elle bannit la justice. Et septièmement, elle est l'ennemi d'Israël et de son Dieu. Mais alors, qu'est-ce que cette Babylone dont nous parle l'Apocalypse? Voyez-vous, depuis la chute de la Babylone littérale, Satan n'a jamais cessé de rechercher à dominer le monde à travers les empires mondiaux qui succédèrent à la Babylone littérale. En effet, il a œuvré à travers l'empire médo-persan. Il a aussi œuvré à travers l'empire qui lui succéda, l'empire grec, mais aussi à travers l'empire romain. Et ces empires qui nous sont présentés à travers la statue de Daniel 2. J'aimerais que nous lisions maintenant un passage que nous trouvons en 1 Pierre 5, verset 13. Là, on nous dit « La communauté des élus qui est à Babylone et Marc, mon fils, vous salue. » Comme nous l'avons dit plus tôt, la Babylone littéral était déjà en ruine au premier siècle. À cette époque-là, les Juifs étaient sous la domination de l'Empire romain et les chrétiens étaient persécutés par ce même pouvoir. Alors, pourquoi Pierre, à cette même époque, parle-t-il de personnes qui sont à Babylone, puisque cet empire était déjà en ruine? En fait, nous savons maintenant que les premiers chrétiens employaient souvent Babylone comme un nom codé pour se référer à la capitale romaine, et ce afin d'éviter les représailles politiques. Et c'est pour cela que les commentateurs de la Bible s'accordent à dire que Pierre utilise ici, le terme Babylone pour faire référence à la capitale de l'Empire romain. Mais est-ce à dire pour autant que la Babylone d'Apocalypse 14, verset 8, représente l'Empire romain, la Rome impériale? Mes amis, si nous souhaitons bien identifié la Babylone d'Apocalypse 14, verset 8. Pour savoir de quoi ce message nous parle, nous devons comprendre eh bien, que sous la nouvelle alliance, le conflit entre l'Israël de Dieu et Babylone ne connaît aucune restriction ethnique, géographique, car l'Israël de Dieu est son Église, tous ceux qui embrassent la foi de Jésus. Considérons Apocalypse 17, versets 1 à 5. Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux avec lesquelles les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant sept têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. » La représentation symbolique de Babylone en Apocalypse 17 comme étant la grande prostituée est un langage qui fait écho aux prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes d'Israël ont, à plusieurs reprises, décrit le peuple de l'Alliance apostat comme étant l'épouse devenue la grande prostituée. En effet, en Ésaïe 1, verset 21, « Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée ? Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle, et maintenant, des meurtriers. » Mais encore, en Jérémie 3, versets 1 à 3, et le verset 8 et 9, « L'Éternel a dit, « Si quelqu'un renvoie sa femme, et qu'elle le quitte et se joigne à un autre homme, retournera-t-il encore vers elle ? Le pays même n'en sera-t-il pas vraiment souillé? Or toi, qui t'es prostituée à plusieurs amants, reviens à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde, où n'étais-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins comme un arabe au désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta malice. Aussi, les pluies ont-elles été retenues, et il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison. Et tu as eu le front d'une femme débauchée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Et j'ai vu que, quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, cependant, sa sœur, Juda, la perfide, n'en a point eu de crainte, car elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Par le bruit de sa prostitution, elle a souillé le pays. Elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Et vous pouvez aussi retrouver des textes où les prophètes font allusion au peuple de l'Alliance comme s'étant prostitué en Ézéchiel, chapitre 16, versets 15 à 34, mais aussi dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2 et les versets 2 et 4. Bien-aimés, selon Jean, l'histoire de la reine Jézabel et de son règne religieux cruel sur le royaume du nord d'Israël est le type de l'apostasie qui se développerait dans l'Église chrétienne. En effet, en Apocalypse 2, versets 20 à 21, nous lisons « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication. Et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur. Et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent de leurs actions. Et je ferai mourir ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ok? Apocalypse 17 décrit la Babylone spirituelle comme étant une mère prostituée, meurtrière. Ce qui est l'exacte antithèse de la femme pure que Jean nous présente en Apocalypse 12, dont les enfants sont persécutés et mis à mort. Ainsi, dans le livre de la Révélation de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, Babylone est associée à une église infidèle et déchue, plutôt qu'à l'Empire romain. Et nous voyons même qu'il s'agit d'une église qui a fait alliance avec le pouvoir civil. Une église qui a fait alliance avec quoi? Le pouvoir civil, puisqu'on nous dit qu'elle s'est associée avec les rois de la terre, au verset 1 et 2 d'Apocalypse 17. Et mes amis, de la même manière que la Babylone historique a envahi la terre d'Israël, a amené son peuple en captivité et a détruit son temple, de même, la Babylone spirituelle et l'Église qui attaque et asservit, ou devrais-je dire, l'Église apostate qui attaque et asservit l'Église du Christ et blasphème le temple de la Nouvelle Alliance. Et de manière intéressante, bien-aimé, la puissance qui répond à ces caractéristiques est la petite corne. La petite corne du livre de Daniel, laquelle est présentée par Jean sous le symbole d'une bête montant de la mer en Apocalypse 13, versets 1 et 2. Merci. Et il y a 10 manières d'identifier cette petite corne. Faisons un rapide rappel pour ceux qui connaissent déjà ces choses, et si vous ne les connaissez pas, cela sera pour vous l'occasion, eh bien, de vous familiariser avec cela. La première manière, c'est que, eh bien, elle arriva au pouvoir après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Deuxièmement, elle s'éleva parmi les 10 divisions de l'Empire romain. Troisièmement, elle commença comme une petite corne, c'est-à-dire une petite puissance. Quatrièmement, elle renversa 3 rois. Cinquièmement, elle a un homme à sa tête. D'accord? Sixièmement, sa combinaison Église-État la rend différente des autres rois qui étaient des pouvoirs purement étatiques. Septièmement, elle prononcerait des paroles arrogantes et blasphématrices. Et des exemples de blasphème, c'est le fait de revendiquer être Dieu et être capable de pardonner les péchés. D'après la, et nous vous invitons à voir la définition biblique du blasphème en Matthieu 9, versets 2 à 6, et en Jean 10, versets 30 à 33. Huitièmement, elle dominerait pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, autrement présenté dans la Bible comme étant 1260 jours ou 42 mois prophétiques. Et puisqu'un jour est égal à une année dans la prophétie biblique, cette puissance devait régner pendant 1260 années, de 538 après Jésus-Christ, lorsque les Ostrogoths, dernier royaume adverse, furent renversés, jusqu'en 1798, lorsque le général Berthier, ok, c'était un Français, eh bien, fit le pape Pie VI prisonnier et l'amena en France, où il fut détenu en captivité. Et neuvièmement, durant ces 1260 années, elle a effectivement opprimé et tué plusieurs des enfants de Dieu, sans mentionner les millions qui furent mis à mort en raison des persécutions papales. Et dixièmement, elle penserait à changer les temps et la loi. Le catéchisme, mes amis, de l'Église catholique contient ces changements. Prenons cet exemple. Le deuxième commandement du Décalogue fut supprimé. Le sabbat du septième jour fut remplacé par le sabbat du premier jour. Et le dixième commandement fut divisé en deux afin de conserver un Décalogue. Cette description n'est pas celle de la Rome impériale, mes amis. Mais de la Rome papale. Et il est évident que la femme d'Apocalypse 17 représente l'Église catholique romaine. Mais est-ce à l'Église catholique romaine que le deuxième ange d'Apocalypse 14, verset 8, se réfère? Mes amis, l'Église catholique romaine était déjà infidèle et déchue bien avant le 19e siècle, date à laquelle, du point de vue historique, le deuxième ange a donné son message pour la première fois. Au 19e siècle, cela faisait déjà des siècles que l'Église catholique romaine était déjà infidèle et déchue. Donc, à qui Babylone? À qui Babylone fait-elle référence en Apocalypse 14, verset 8? Souvenons-nous, mes amis, que la femme d'Apocalypse 17 est présentée comme étant la mère des prostituées. D'accord? Ce qui implique qu'elle a des filles. Une petite. C'est ça même. Ainsi, la Babylone d'Apocalypse 14, verset 8, fait tout simplement référence aux églises protestantes qui ont suivi l'exemple de l'Église catholique romaine. D'accord? Des églises qui, en réalité, ont cessé de protester, qui ont cessé de réformer et ont suivi l'exemple, ont suivi les œuvres et les voies de l'Église catholique romaine. Et est-ce que vous savez pourquoi Dieu déclare? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu envoie un message au 19e siècle pour dire que ces églises sont tombées? Pourquoi? Mes amis, tout simplement parce qu'elles ont rejeté le message du premier ange. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas accepté le message du premier ange. Voyez-vous, Dieu n'a pas attendu que la vérité du sabbat soit proclamée. Dieu n'a pas attendu que la vérité sur la non-immortalité de l'âme, eh bien, soit rendue claire. Dieu n'a pas attendu, eh bien, que nous ayons une compréhension correcte sur les commandements, ces commandements, sur la foi de Jésus, sur le témoignage de Jésus, sur la réforme sanitaire, pour envoyer un message pour dire que ces églises étaient tombées. Le simple fait qu'elle n'ait pas accepté le message du premier ange a suffi pour que Dieu envoie un message pour dire que ces églises sont tombées, que ces églises sont déchues. Le premier ange appelle le monde à craindre Dieu, à lui donner gloire et à l'adorer comme étant le créateur du ciel et de la terre. Le troisième ange, quant à lui, met en garde contre l'adoration de la bête et de son image et contre la réception de sa marque. Et ces deux messages appellent tacitement le monde à agir ou à réagir. Mais contrairement au premier et au troisième ange, le deuxième ange n'appelle pas à l'action. Le deuxième ange, je répète, contrairement au premier et au troisième ange, lui n'appelle pas à l'action. Non. Il est simplement, son message est simplement une déclaration de fait. Babylone est tombée. Du point de vue historique, comme nous l'avons dit, ce message fut premièrement prêché par les adventistes millérites durant l'été de 1880. 44. Et il fut appliqué aux églises qui rejetèrent le message du premier ange concernant le jugement. Lequel? Le jugement. Eh bien, est la raison pour laquelle les hommes doivent craindre Dieu et lui donner gloire. C'est en raison du jugement qui est venu que Dieu appelle les hommes à le craindre et à lui donner gloire. En d'autres termes, chers amis, la prédication du jugement investigatif est une composante de l'évangile éternel. Qu'avons-nous dit là? La prédication du jugement investigatif est une composante de l'évangile éternel. Ceux qui ont prêché ce message, eh bien, pour la première fois, lui ont toujours associé les paroles que nous lisons au verset 4 d'Apocalypse 18. À savoir, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi pas à ses plaies. » Le quatrième ange, ou l'autre ange d'Apocalypse 18, reprend le message du deuxième ange, mais il l'amplifie. Et là, contrairement au deuxième ange, il y a un appel à l'action. Le deuxième ange dit simplement que Babylone est tombée. Mais le quatrième ange dit, elle est tombée, mais après il y a « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Donc là, il y a un appel à l'action. Et à ce propos, j'aimerais que nous considérions le témoignage d'un pasteur. Le témoignage d'un pasteur qui a vécu à l'époque où ce message a historiquement été proclamé pour la première fois. Et ce pasteur est le pasteur James White. Et lisons le témoignage qu'il a rendu dans l'ouvrage « Le message du troisième ange » à la page 9 et 10. Il déclare « Le premier message était d'abord destiné aux églises, mais rapidement, leurs journaux religieux refusèrent de le publier et leurs maisons d'édition lui fermèrent leurs portes. En agissant ainsi, elles chassèrent la bonne nouvelle éternelle du royaume de Dieu. Et lorsque cela fut accompli, Jésus ainsi que l'Esprit de vérité les laissa pour toujours. Et les églises, Babylone, tombèrent. Dans toutes ces églises, seules quelques âmes vivantes avaient accepté le message de l'avènement. Celles dont le manger et le boire, dont la vie même, était de parler du retour de Jésus ainsi que de la restitution. » Mais il ne leur fut pas permis de rendre témoignage. C'est alors que la voie fut préparée pour le deuxième message. Et regardez ce qu'il va dire ici. Elle est tombée Babylone. Et il va ajouter les paroles du verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Chaque croyant en l'avènement sait que nous avons entendu ce message. Nous n'avons pas oublié. Merci. Chaque croyant en l'avènement sait que nous avons entendu ce message. Nous n'avons pas oublié les excellents sermons qui ont été prêchés et publiés sur ce sujet par l'ancien Joseph March et plusieurs autres. Nous n'avons pas non plus oublié l'effet que ce message eut sur le peuple de Dieu, car ce dernier lui obéit et se dépêcha de quitter les églises. Qu'il s'agisse de l'époque ou de l'endroit, cette prophétie s'est parfaitement accomplie. Certains nous disent que Babylone, ici, est l'église catholique romaine. Mais le peuple de Dieu n'était pas dans cette église. Le premier message était destiné aux églises à partir des environs de 1840 jusqu'en 1843. Puis, un deuxième ange le suivit. Par conséquent, le message « Elle est tombée, Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple » fut annoncé en 1844. Nous l'entendîmes de nos propres oreilles, nos voix le proclamèrent, nos êtres entiers sentirent sa puissance, et de nos yeux, nous vîmes son effet. Aussi, le peuple de Dieu qui était oppressé rompit les liens qui le maintenaient dans les différentes sectes, et il s'échappa de Babylone. Remarquez ici qu'à chaque fois que le pasteur James White eh bien, mentionne le message du deuxième ange, il précise toujours que de son vivant, lui et, ses et les prédicateurs qui lui étaient associés ont toujours associé la parole « sortez du milieu d'elle », parole qui n'est pas dans le message du deuxième ange. Mais pourtant, à leur époque, ils ont toujours associé cet appel à l'action. Pourquoi ? Oui, mais pourquoi la chute de la Babylone spirituelle en 1844 impliqua-t-elle le fait d'en sortir ? Puisque le message du deuxième ange en lui-même ne le demande pas. Pourquoi les pionniers adventistes, les pionniers de la prédication de ce message, pourquoi ont-ils toujours associé le fait de sortir au message « Elle est tombée » ? Mes amis, il nous faut comprendre que la chute morale, de Babylone n'est pas la destruction, d'accord ? Mais c'est la sentence. C'est la sentence, mes amis. Or, la sentence de la Babylone historique fut rendue avant sa destruction, comme nous pouvons le lire, et là je vous inviterai à ouvrir vos Bibles avec moi parce que le texte ne sera pas affiché sur l'écran, comme nous pouvons le lire en Daniel 5, versets 22 à 31. Daniel 5, versets 22 à 31. Et là, nous lisons. Et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté les vases de sa maison devant toi. Et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. C'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de main et que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel ou fartsin, c'est-à-dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'interprétation de ces paroles. Mene, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit tout du moins au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. Dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. Mes amis, la main qui écrivit sur la muraille du palais la sentence de la Babylone historique est le type du deuxième ange annonçant la sentence de la Babylone spirituelle. Et tout comme la sentence de la Babylone historique fut rendue avant sa destruction, de même, la sentence de la Babylone spirituelle sera rendue avant sa destruction qui aura lieu sous la septième plaie. Il y a une question, arrivée à ce stade de notre présentation, que nous devons nous poser. Il y a une question que nous devons nous poser. Étant donné que la sentence est rendue avant la destruction, est-ce que nous allons prendre le risque de rester à un endroit que le ciel déclare être déchu, que le ciel déclare être corrompu? Est-ce que nous allons nous risquer à rester à un endroit que Dieu nous dit que cela est déchu, que cela est corrompu? Mes amis, ceux qui ont accepté, premièrement accepté le message du premier ange, eux n'ont pas pu rester dans des églises que le ciel avait déclarées comme étant déchues. Ils n'ont pas attendu que la destruction de Babylone ait lieu pour sortir. Ils n'ont pas attendu l'imminence de la destruction pour sortir des églises déchues. Et voyez-vous, cela devient plus clair quand on considère la raison pour laquelle Babylone est tombée. Considérons ensemble la raison pour laquelle Babylone est tombée. C'est qu'elle a abreuvé. Elle a abreuvé. En Apocalypse 14, tout du moins, verset 8, j'aimerais que nous relisions ce verset, le texte de base, et nous allons préciser quelque chose. Et un autre ange le suivit en disant, « elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé. » Le terme, mes amis, traduit eh bien, par « abreuvé » en Apocalypse 14, verset 18, vient du grec « potizo ». D'accord? Et « potizo » est un terme que nous retrouvons également en 1 Corinthiens 3, verset 1 et 2, où l'apôtre Paul déclare, « Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire. » Et là, ce terme « boire », il est traduit à partir aussi de « potizo ». D'accord? « Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. » Quel est ce lait que l'apôtre Paul donna aux Corinthiens? Le lait. Quel lait que l'apôtre Paul a donné aux Corinthiens? Il s'agit de l'enseignement de la parole. En effet, en Hébreux 5, versets 11 à 14, Melchisédek, au sujet de qui nous avons beaucoup de choses à dire, qui sont difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, tandis que vous devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Et encore, en 1 Pierre 1, verset 25, jusqu'au verset 2 du chapitre 2, nous lisons « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraudes, de dissimulations, d'envie et de médisances, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel est pur afin que vous croissiez par son moyen. Ici, nous voyons que le lait que l'apôtre Paul donnait à boire aux croyants était l'enseignement pur de la parole. Quel était ce lait que l'apôtre Paul donnait à boire aux croyants? L'enseignement pur de la parole. Par conséquent, le vin de Babylone est son enseignement impur. Si l'enseignement pur de la parole, c'est la bonne et sainte doctrine, le bon enseignement, le vin qui enivre est quant à lui, eh bien, l'enseignement religieux corrompu, c'est-à-dire les fausses doctrines. Mes amis, durant la première partie de notre présentation de ce message, nous avons vu que le message du deuxième ange est en fait la réponse de Dieu au rejet du message du premier ange par les églises protestantes au 19e siècle. En d'autres termes, Dieu considéra ces églises comme étant déchues, comme étant moralement tombées, car elles refusèrent de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer comme étant le Créateur. Et de quoi cela est-il un rejet? Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant quoi? L'évangile éternel. Voilà ce que l'ange annonce, mes amis. Lorsque nous rejetons le message du premier ange, Dieu nous considère comme étant Babylone parce que nous avons rejeté l'évangile temporel, l'évangile momentané, l'évangile éternel. Ainsi, ce message concernant la chute de Babylone qui enivre les nations trouve son accomplissement dans le fait que les églises protestantes s'éloignèrent de la pureté et de la simplicité de l'Évangile. Or, lorsque l'on accepte l'Évangile éternel, on ne peut pas, mes amis, si l'on se préoccupe véritablement de son salut et que l'on aime la vérité présente, on ne peut pas, voyez-vous, demeurer dans des églises où ce dernier est rejeté et combattu. Si nous nous préoccupons de notre salut et que nous aimons la vérité, nous ne pouvons pas demeurer dans des églises où l'évangile éternel est rejeté et combattu. En parlant des 144 000, Jean déclara en Apocalypse 14, verset 4, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Le terme qui est traduit par « souillé » en Apocalypse 14, verset 4, vient du grec « molino ». Molino. Et ce terme grec « molino », mes amis, eh bien, n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament. Je reprends. Molino n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament. Une fois en Apocalypse 14, verset 4. Une fois en Apocalypse 3, verset 4, où il est dit « Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé, Molino, leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. » Et la troisième fois se trouve en 1 Corinthiens 8, verset 7. Et lisons, si vous le voulez bien, à partir du verset 6. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, la Trinité, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée à l'idole, et leur conscience, étant faible, en est souillée. Ici, l'apôtre Paul déclare que ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu le Père, du seul vrai Dieu, et de Jésus-Christ, son Fils, le seul Seigneur, finissent par avoir une connaissance souillée. Mes amis, se souiller avec des femmes prophétiques, c'est-à-dire avec les églises déchues, en perdant la connaissance de Dieu et de Jésus en raison du faux enseignement qu'est la Trinité. C'est la dernière chose que nous devons faire, mes amis, si nous voulons faire partie des 144 000. Si nous voulons faire partie des 144 000, je le répète, il ne nous faut surtout pas être en contact avec des églises qui vont, eh bien, qui enseignent la Trinité, car c'est un enseignement qui va souiller la conscience, mes amis. Et c'est pour cela que ceux qui ont premièrement annoncé le message du premier ange sont sortis des églises de Babylone en 1844. Et cela se vérifie dans leurs croyances fondamentales. En effet, dans les croyances fondamentales des Adventistes du septième jour de 1889, ils croyaient qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Voilà ce en quoi croyaient les pionniers adventistes, ceux qui ont accepté le message du premier ange et qui, de ce fait, n'ont pas accepté de souiller leur conscience avec les églises déchues. Et concernant le Fils, qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses, tout du moins, et par qui elles subsistent, qu'il prit sur lui la nature de la semence d'Abraham pour la rédemption de notre race déchue. Voilà ce que croyaient les pionniers adventistes concernant Dieu, l'Esprit et Jésus-Christ, le Fils du Père éternel. Voilà ce que croyaient, mes amis, ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Mais aujourd'hui, l'Église adventiste du septième jour croit en la Trinité. Il croit qu'il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Je pense qu'il n'est pas difficile de conclure qu'il y a de quoi souiller notre conscience ici. Mes amis, la caractéristique des églises tombées en 1844 est qu'elles rejettent le message du jugement, qui est la raison pour laquelle il faut craindre Dieu et lui donner gloire. Or, voyez-vous, le jugement n'est qu'un aspect, n'est qu'une face de l'œuvre du Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, dont l'autre face est la purification du sanctuaire céleste. Autrement dit, rejeter la purification du sanctuaire revient à rejeter le message du premier ange, n'est-ce pas? Les pionniers adventistes n'ont pas rejeté le message du premier ange. Et remarquez comment ils l'acceptaient. En effet, dans le point numéro 2, ils croyaient qu'il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, qui, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance, et leurs péchés seront alors effacés et emportés du sanctuaire. Ici, ceux qui ont accepté, du point de vue historique, le message du premier ange, croyaient qu'il y a une grande expiation qui a lieu lorsque Jésus rentre dans le dernier appartement du sanctuaire céleste. OK? Et à ce propos, Madame Ellen White déclara dans La Tragédie des siècles, à la page 530, paragraphe 3, « Le peuple de Dieu devrait comprendre imparfaitement, parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. » Les pasteurs, les prédicateurs, c'est ça? Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Christopher, est-ce que tu comprends ces choses, mon ami? Maman, est-ce que tu comprends ces choses?
Ma sœur, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses, mon frère? Est-ce que tu comprends ces choses, ma sœur? Chacun, nous devons comprendre ces choses. Ce n'est pas que le pasteur, le prédicateur. Non, chacun. Mes amis, aujourd'hui, nous avons un problème. Je dis là, nous n'y avons problème, Zamim. C'est que je dis là, l'Église adventiste du septième jour d'aujourd'hui a rejeté l'Évangile éternel. Ils ont rejeté l'expiation finale, mes amis. En effet, ils disent, il y a dans le ciel, dans la croyance numéro 24 d'aujourd'hui, un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Lorsque nous lisons cette déclaration, eh bien, on a l'impression que tout va bien. Mais mes amis, ici, l'expiation finale, la grande expiation a disparu. Dans l'ouvrage Question on Doctrines, qui a été écrit suite aux discussions qui ont eu lieu entre les dirigeants adventistes et les dirigeants protestants, un représentant évangélique du nom de Walter Martin déclara, il posa la question suivante aux adventistes. Étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Et à ce propos, le pasteur Lira Edwin Froom, qui est un représentant adventiste, il a répondu la chose suivante. Les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. Voilà quelle fut la réponse de Lira Froom. Et il continua en disant, ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement d'après nos besoins et nos requêtes. Cet homme est en train de réécrire l'histoire. Il est en train d'essayer de faire comprendre à ceux qui liront cet ouvrage et à ceux à qui il a répondu, c'est-à-dire aux représentants évangéliques, que même lorsque vous lisez dans les écrits d'Ellen White qu'il y a une expiation en deux phases, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que l'expiation s'est arrêtée à la croix et que dans le sanctuaire céleste, il n'y a pas d'expiation. Et mes amis, voilà la signification de la doctrine numéro 24 de l'Église adventiste du septième jour d'aujourd'hui. Mes amis, aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans la dénomination des adventistes du septième jour, il y a deux fausses doctrines fondamentales qui sont rentrées. La première étant la doctrine de la Trinité, qui souille la conscience de ceux qui l'adorent, et la deuxième doctrine fondamentale, mes amis, et qui n'est pas des moindres, mais qui est en fait celle qui distingue, en tout du moins la véritable compréhension de cette doctrine, et celle qui distingue les adventistes de toutes les autres religions, c'est la compréhension de l'expiation, mes amis. Les adventistes du septième jour se distingue de toutes les autres religions, mes amis, par rapport à la compréhension de l'expiation. Les adventistes du septième jour ne sont pas les seuls à observer le sabbat du septième jour, mes amis. Les adventistes du septième jour ne sont pas les seuls à proscrire l'usage du porc dans leur alimentation. Les adventistes du septième jour ne sont pas les seuls à croire en la non-immortalité de l'âme. Non. Cependant, les adventistes du septième jour sont les seuls à croire en l'expiation finale qui a lieu à partir de 1844. Et mes amis, ça c'est le véritable adventiste, le véritable adventisme du septième jour qui croit en cela. Mais aujourd'hui, cela est rejeté. Lorsque une fausse doctrine, lorsque une église accepte une fausse doctrine, qu'est-ce que nous dit la prophétie biblique? Mais avant sortie, qui ça est divini? Elle est tombée, Babylone la grande. Et après ça, bon, je dirais, nous sortis là. Sortis. Écoutez-moi ça. En Tragédie des siècles, à la page 413, paragraphe 1, Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. C'est un mime. Une femme, lorsqu'elle arrive au monde, est-ce qu'elle naît, est-ce qu'elle sort du ventre de sa mère prostituée? Non! La prostitution, ce n'est pas une personne. La prostitution, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est une pratique. Une église ne naît pas toujours corrompue, mais il arrive malheureusement qu'une église se corrompe. Et oui, elle peut être pure au départ, mais du moment que la corruption rentre dedans et qu'elle gangrène tout le corps, mes amis, comment le Seigneur appelle ça? Babylone. Et après, il nous fait comprendre qu'elle est tombée et après qu'il faut en sortir. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité. Et la bénédiction de Dieu a reposé sur elle. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël. Le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Mes amis, c'est ce qui a fait que la dénomination est tombée. C'est parce qu'ils ont voulu suivre les protestants. Aujourd'hui, en Haïti, l'Église adventiste du sixième jour est rentrée dans la fédération protestante. Mais mes amis, cela n'aurait jamais pu arriver si la dénomination n'avait pas accepté la doctrine de la Trinité et si elle avait maintenu sa compréhension sur l'expiation finale. Oui, mais étant donné qu'ils ont changé les doctrines pour adopter les compréhensions babyloniennes de la vérité concernant la vérité biblique, concernant la Bible, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a enlevé les barrières qui faisaient qu'on ne pouvait pas s'associer avec les églises protestantes, mes amis. Apocalypse 14, verset 8, dit quelque chose. Elle dit, elle est tombée, pour quelle raison? Notez la raison. Et on va terminer avec ça. Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Pour quelle raison Babylone est tombée d'après le deuxième ange? C'est parce qu'elle a abreuvé toutes les nations. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'elle a donné à boire. Ok. Mais notez maintenant pourquoi Babylone tombe sous le quatrième ange. Car toutes les nations ont bu. Ça veut dire que, mes amis, il y a une progression. Premièrement, elle abreuve. Et deuxièmement, toutes les nations, elle abreuve en Apocalypse 14, 8. Et en Apocalypse 18, toutes les nations ont bu. Vous voyez cette pièce ici? Ce n'est pas un bar. Vous ne pas servir alcool ici. Hein? Ce n'est pas un bar ici. Vous me rassurez, d'accord? Ce n'est pas un bar ici. Mais imaginons que des gens se saisissent de cette pièce, de cette salle, et décident d'en faire un bar. Et que cette salle devienne, eh bien, un débit de boissons fortes. À ce moment-là, nous aurons ici un bar qui va abreuver la ville de Bon Repos, le village de la Renaissance, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que tout le voisinage va venir s'abreuver. Le bar abreuve, mais cela ne veut pas dire que toute la ville a bu. Vous comprenez ça? Mes amis, du moment qu'une église se transforme en bar spirituel qui sert de la fausse doctrine, il ne faut pas attendre que toute la ville, que tous les habitants viennent et aient bu et s'enivrent de ce faux enseignement pour dire, à présent, nous allons sortir. Non, mes amis. Du moment que l'Église a été prise et que nous l'avons transformée en bar, Dieu nous dit de sortir. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que la corruption qui est dans l'Église se déverse sur le monde et soit acceptée par le monde pour dire, ah, nous qui prenons notre position, nous qui changer, nous qui sortir là. Non, mes amis. Non. Du moment que la corruption est rentrée et que l'Église, quelle que soit l'Église, mes amis, il faut sortir. Parce que voyez-vous, Dieu ne fait pas de traitement de faveur. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes amis, si Dieu doit agir différemment avec l'Église adventiste du septième jour d'aujourd'hui, dans ce cas, Dieu aura à demander pardon à Israël, aux églises de Rome et aux églises protestantes parce qu'il les a qualifiées de Babylone. Mes amis, mais je ne pense pas, voyez-vous, que Dieu va demander pardon à Israël, aux églises de Rome et aux églises protestantes parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, mes amis, qu'aujourd'hui, vous et moi devons prendre une décision. Est-ce que nous voulons avoir une conscience pure? Est-ce que nous voulons faire partie des 144 000?
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org. Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.